Nous hébergeons dans nos placards toute une famille de produits ménagers gorgés de substances nocives. Tel est le constat peu surprenant d'ailleurs de 60 millions de consommateurs qui a passé au crible les ingrédients présents dans nos produits d'entretien. La moitié d'entre eux sont jugés dangereux, voire très dangereux. Et l'Institut National de la Consommation plaide donc pour une meilleure identification de ces substances toxiques sur l'emballage des produits ménagers. Sylvie Metzeler est la rédactrice en chef de 60 millions de consommateurs. Elle est avec moi dans un instant. Elle répond en direct à toutes vos questions et vos témoignages sur franceinter.fr, le mot-clé l'attaque et au standard au 01 45 24 7000. Camille Passauvert, tout à l'heure à 13h40, Camille Cronier.
Et les funérailles écologiques, et oui, même là.
Dans la deuxième demi-heure, vos solutions pour la planète avec aujourd'hui Clossinde, une auditrice de Saint-Amour dans le Jura, qui nous parlera de son projet de classe éco-citoyenne. Nous repartirons également en Guyane avec Célia Kiré, qui est partie à la rencontre de tortues marines. Et puis notre invité découverte est chargé d'une mission nationale autour du loup. Il hurle avec eux. Il sera avec nous en fin d'émission. Voilà pour le sommaire de cette Terre au Carré, réalisée par Valérie Ayestaraï.
Mathieu Vidard. La Terre au Carré. Sur France Inter.
Moi, je prends le plus naturel possible. Je fais mes produits nettoyage.
Vous les faites vous-même ?
Ah oui, je les fais moi-même. Ça revient moins cher.
Comment vous faites ?
Petit à petit, hein, je ne suis pas venue de suite. Puis maintenant, je suis entièrement bio. Hein, disons, produits nettoyage, tout. Non, c'est bon. Puis, avec les scandales qu'il y a, c'est pas une question de prix.
C'était ce matin dans le journal de 7h. Alors, le sujet ne fait pas encore scandale, mais il a de bonnes raisons de nous alerter. Bonjour, Sylvie Metzeler.
Bonjour.
Vous êtes donc la rédactrice en chef de 60 millions de consommateurs et vous publiez dans ce numéro du mois de septembre un dossier sur la toxicité de nos produits ménagers en demandant, entre autres, que soit imposé un nouveau système de notation des risques potentiels. Car tout le problème avec ces produits, c'est ce que vous expliquez, c'est déjà d'obtenir la liste des ingrédients, visiblement.
Ben ouais. Ouais, parce qu'en fait, il n'y a pas du tout, les industries ne sont pas contraints de marquer sur leur étiquette tous les ingrédients des produits. Alors après, encore vous le diriez-il, il y a différentes réglementations en fait en fonction des types de produits. Et vous pouvez avoir, il faut savoir que sur les produits ménagers, contrairement aux produits cosmétiques par exemple, il y a pas un vocable unique utilisé sur un ingrédient. Vous pouvez avoir jusqu'à 26 noms différents.
Ah oui, pour le même ingrédient.
Ouais, pour le même ingrédient. Donc,
il faut avoir une bonne connaissance pour se repérer.
C'est-à-dire que si vous n'avez pas fait petit chimiste, vous êtes un peu mal quand même. Ouais. Donc il y a ça. Donc les listes sont incomplètes. Et après, voilà, personne ne sait quels sont les produits dangereux vraiment. Ouais. Enfin, moi, je baigne dedans depuis quand même quelques temps. Je reconnais quand même quelques mots un peu clés comme ça qui me parlent quand je regarde les étiquettes, mais je connais pas tout quand même.
Ouais. Alors, selon donc les produits, il y a plusieurs réglementations, c'est ça, différentes.
Ouais,
qu'est-ce qui est obligatoire, qu'est-ce qui ne l'est pas finalement ?
Alors, par exemple, alors on va pas rentrer dans tous les détails, mais par exemple, il y a les 20, la même chose que pour les produits cosmétiques, il y a les 26 allergènes obligatoires. Voilà, ceux avec lesquels il y a plus de problèmes, mais vous doutez bien qu'il n'y a pas que 26 allergènes qu'on peut retrouver dans les produits ménagers, il y en a beaucoup, beaucoup plus. Alors après, certes, tout le monde n'est pas allergique, mais après, vous pouvez développer ce terrain allergique.
Oui, donc les allergènes, les conservateurs, alors ça, ils peuvent le mettre, mais sur leur site web, c'est-à-dire que ce n'est pas sur l'étiquette directement.
Si vous n'avez pas,
il
y a un certain nombre d'ingrédients qui doivent être absolument inscrits, et sinon tous les autres doivent être écrits sur leur site internet. Alors déjà, pour trouver le site internet sur l'étiquette,
il faut avoir une bonne loupe.
Ouais, il faut pas être presbyte déjà, il faut avoir une grosse loupe. Et après, parfois, ces sites internet, les informations sont mélangées avec tout le reste, avec le site marchand. Donc, c'est vraiment une tannée.
Qu'est-ce qui vous a intéressé, vous, dans un premier temps ? C'était d'étudier les effets sur la santé et sur l'environnement de 108 produits. Hein,
parce qu'évidemment,
c'était compliqué de tous les prendre.
On est passé sur 108 produits. Alors, c'est pas la première fois qu'on analyse des produits, etc. Mais là, on voulait vraiment prendre en compte les risques à la fois pour la santé humaine et pour l'environnement. Pour nous, ça va tout à fait de pair. Et donc voilà. Et sauf que
c'est de la santé environnementale, d'ailleurs.
C'est la santé environnementale.
Pour réunir les deux.
Voilà, c'est exactement ça. Sauf que aujourd'hui, pour les consommateurs, il n'y a aucun outil qui leur permet de savoir si c'est bien, si c'est pas bien, et si tous ces facteurs sont réunis. Ouais. Donc, on a créé le nôtre parce que on en a un peu marre d'être dans le constat, de dire bah ce produit-là. Alors bien sûr on le fait là, on fait. Puis ce nouvel outil nous a permis de dire tel produit est vraiment bien classé, celui-là pas du tout. Mais plutôt que de rester dans le constat, bah faire une proposition pour que les choses changent et arriver vraiment à un nouvel étiquetage.
Alors c'est Ménage Score.
Oui, alors on l'a fait comme outil. Ça peut s'appeler autrement.
Hein. Ça nous a rappelé d'autres d'autres modèles, hein, comme Nutri-Score par exemple.
Oui, c'était volontaire. C'était volontaire pour que ce soit clair pour les gens.
Comment précisément vous avez procédé pour mener l'enquête, pour évaluer les risques à la fois donc sur la santé humaine et sur l'environnement? Parce que ça, c'est un vrai travail de scientifique pour totalement fiable.
Hein. Voilà, c'est pas des journalistes hein, qui ont fait ça. Effectivement, donc 60 millions de consommateurs est au sein de l'INC, l'Institut National de la Consommation, et on a des ingénieurs in vitro, dont des ingénieurs chimistes, dont c'est le métier, et donc depuis des mois, ils travaillent sur ces classifications, ces méthodes de calcul, c'est-à-dire que tous les ingrédients de ces produits ont été rentrés avec en face de chacun tous les risques possibles avec la gradation. Naturellement, on fait des pondérations en fonction de la concentration, en fonction de voilà comment ça arrive. Enfin, tout ça est très scientifiquement établi.
Et puis tout dépend du dosage et de la façon dont on s'en sert aussi soi-même à la maison, évidemment.
Absolument. Alors après, c'est toujours pareil. Effectivement, c'est en l'usage une fois, c'est ce qu'on nous rétorque souvent. Mais après, c'est qu'on fait tous différents usages.
Ouais. Donc il y a 5 lettres hein, de A à E pour définir la dangerosité au fond du produit.
La rentrée scolaire est passée, donc A, on voit c'est très bien, on a une très bonne note. B, C, D, E, c'est comme quand on était petit et comme pour nos petits aussi. Et les couleurs, donc de A c'est vert, c'est très bien, et après on va vers le rouge. Ouais. Donc c'est le système des feux tricolores marié aux lettres.
Le constat c'est quoi alors, le bilan, le résultat? La moitié sont dangereux, voire très dangereux.
Oui, c'est, en fait on peut aller dans l'autre sens, c'est que 10% seulement sont vraiment corrects seulement.
Tous les produits sont concernés finalement par des problèmes de dangerosité, et ça dépend pas des marques d'ailleurs. Hein. Certaines s'en sortent très bien ou vendent les pires produits possibles.
Oui, parce que sur une même marque, vous pouvez avoir différents types d'ingrédients, certains qui apparaissent et d'autres qui apparaissent pas. Mmh. Et effectivement, là, on voit sur une même marque très connue, on peut avoir aussi bien un A, un C, qu'un D, qu'un E, ce qui est quand même difficile.
Ouais. Quels sont les produits vraiment à éviter le plus possible dans ce travail?
Les désinfectants. Ouais. Si on n'a pas besoin de désinfectants, on a tendance à prendre ces produits qui sont quand même hyper corrosifs, etc. Si vous faites votre ménage régulièrement, vous n'avez pas besoin de désinfectants. Et tous ces produits-là, on oublie. Alors, et aussi, tous ceux qui sont marqués sans frotter.
Alors ça c'est ça, le sans frotter. Ouais. Vous dites, vaut mieux mettre un peu d'huile de coude.
Des résultats. Non, mais le sans frotter, si vous avez sans frotter, c'est qu'il y a forcément beaucoup de cochonneries dedans, parce qu'un truc qui se passe sans frotter, ça n'existe pas.
Les lingettes aussi, évidemment, à proscrire.
Les lingettes écologiquement, c'est pas terrible, surtout que beaucoup de personnes les jettent encore dans les toilettes. Alors parfois en plus, on s'est marqué qu'on peut le faire, mais après, dans les usines d'épuration, ils aiment pas ça du tout parce que ça les rend un peu folles, les machines qui font le tri derrière. Donc les lingettes, on oublie. Et surtout dans les lingettes, on le voit là dans notre étude, elles peuvent être imprégnées de substances qui sont pas du tout bonnes. Et moi ça m'arrive, ça m'est déjà arrivé, vous passez un petit coup de lingette sur vos toilettes et vous la jetez. Après, vous n'avez pas forcément pris des gants pour prendre cette lingette qui va vous servir pendant 2 minutes et demie. Ouais,
donc ça, c'est un conseil que vous donnez, prendre des gants.
Ah oui, prendre des gants. Quoi qu'il arrive, prendre des gants, aérer sa maison.
Pour protéger sa flore bactérienne aussi, sur les mains. Mais
aussi, parce qu'il y a des trucs qui sont très... Dans les biocides, donc dans les désinfectants, après, on a une résistance quand même à beaucoup de choses suite à ces usages-là.
Ouais, les produits essentiels naturels que vous préconisez pour la maison, alors il y a le vinaigre blanc. Alors moi j'ai toujours une question sur le vinaigre blanc, qui est vraiment un produit pour lequel on est très confiant, mais c'est l'odeur très très forte de ce vinaigre blanc. Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites sur la dangerosité ou pas?
Oui, sur la dangerosité, oui. Alors donc là pour le coup ce serait très dangereux, on le saurait, il y aurait plein d'études qui le montreraient. Effectivement ça sent très fort, mais après c'est pas parce que on peut faire l'inverse aussi, vos produits ménagers qui sentent ultra bons, ils peuvent être ultra toxiques. Donc là il ne faut pas s'arrêter à l'odeur. En revanche, il faut faire très attention à quoi on les associe. Par exemple, vous récurez au vinaigre blanc et après vous mettez un petit coup de javel dessus, ça c'est terrible, faut surtout pas faire ça parce que vous avez des émanations de chlore, c'est pas bon du tout.
Ouais. Bicarbonate de soude.
Ouais. Bicarbonate de soude. Après, toutes ces choses, alors il y en a plein internet, des recettes de grand-mère. Nous, on avait fait des hors-séries, on avait donné plein de recettes. On peut faire ça, il n'y a aucun danger. Faire juste attention avec les huiles essentielles.
Oui, absolument. Voilà. Alors ça, c'est une question que je vous poserai tout à l'heure et qui arrive déjà de la part des auditeurs, parce que les produits bio, c'est pas forcément bien non plus toujours, les produits verts, en tout cas présentés comme verts. Hein. On en discute ensemble dans un instant. Il y a beaucoup de messages et de questions pour vous. Au standard 01 45 24 7000, Sylvie Metzeler, et puis évidemment sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. On parle donc de ce dossier de 60 millions de consommateurs, dehors les toxiques.
France Inter. La Terre au carré.
Camille passe au vert et aujourd'hui, Camille, il est donc question de l'écologie dans la mort.
Et oui, la protection de la planète ne s'arrête pas aux portes de l'au-delà, ni à celle des cimetières, Mathieu. Il y avait la semaine dernière l'inauguration d'un lieu d'un nouveau genre à Ivry-sur-Seine. Alors suivez-moi, on se promène sur un grand carré d'herbe verte avec le responsable des cimetières parisiens. Est-ce que vous pouvez me dire où on est là ?
Nous sommes sur l'espace écologique funéraire, donc sur les 150 emplacements qui seront installés au fur et à mesure des demandes. Et en fait, dans chaque emplacement, on pourra accueillir deux cercueils dans la sépulture.
157 futures tombes exactement, qu'on reconnaîtra grâce à l'herbe coupée très court, mais il faut encore les délimiter et les numéroter, donc elles ne seront pas occupées avant la fin du mois. Et pour en faire sa dernière demeure, il y a des règles à respecter.
Les personnes qui vont choisir ce type d'inhumation se feront enterrer sans qu'il y ait de béton, de creusement de béton, dans des cercueils qui seront des cercueils en carton ou en bois non verni, non toxique, avec si possible des vêtements qui soient des vêtements écolos, et avec une demande qu'il n'y ait pas de soins thanatopraxiques et pas de dalles de granit ou de dalles de pierre sur la sépulture, uniquement la possibilité pour les familles de pouvoir planter de tout petits arbustes ou des fleurs.
Alors là, c'était l'adjointe en charge du funéraire à la mairie de Paris, visiblement à fond.
Si vous avez envie d'aller voir les columbariums végétalisés, c'est aussi une innovation. Si vous avez 5 minutes pour voir, c'est très beau.
Enfin bon, c'est quand même pas une expo, hein, mais c'est vrai que le catalogue des funérailles écolo est de plus en plus fourni. En témoigne Gauthier de la famille Caton, pompe funèbre depuis 5 générations.
On a des cercueils qui sont éco-conçus. On a aujourd'hui des urnes biodégradables. On est en cours de référencement d'un produit qui sont des urnes à enterrer avec des graines pour planter des arbres.
Il faut rappeler, Mathieu, qu'un enterrement, ça pollue 833 kilos de CO2. C'est un aller-retour Paris-New York en avion, quasiment.
Une inhumation est un enfouissement de produits polluants qui ne serait pas finalement accepté si on retirait le mot obsèque autour. Si demain, concrètement, on voyait quelqu'un enterrer un sac poubelle de vêtements en plastique et de vis et de poignées en métal et de croix, enfin d'objets en métal, on aurait le sentiment qu'il pollue.
Alors oui, c'est un peu brut, mais c'est bien la réalité. Et l'énergie fossile utilisée pour les crémations, sans parler des cercueils en carton, fausse bonne idée, c'est pas bien mieux pour la planète.
Ah, le carton, c'est pas bien, Camille.
Non, en fait, ça brûle en 2 minutes dans le four, donc il utilise encore plus d'énergie pour le défunt, alors que le bois, lui, aide la combustion. Donc, comment faire pour être un bon écolo, même après être passé de vie à trépas? Eh bien, il y a de plus en plus d'alternatives en train de s'implanter, notamment de l'autre côté de l'Atlantique et en Belgique. D'abord, l'humusation. Tu es né poussière, tu deviendras compost. Oui, transformer le corps en engrais. Et puis, il y a l'aquamation. Notre croque-mort est allé voir des tests au Canada.
C'est le fait d'immerger le corps dans un bain avec du sodium et du potassium par ce processus d'une eau à haute pression et de produits donc sodium-potassium. La finalité est la même que la crémation, à la différence qu'il n'y a pas de consommation de gaz. C'est juste une consommation électrique qui est bien moindre qu'un four crématoire. Il n'y a pas de cercueil dans l'appareil, donc ça limite et le coût pour la famille et l'impact environnemental. Et les vêtements ne sont pas tolérés dans l'appareil. Et ça, c'est très écolo. Hein.
Mais encore très tabou, hein, dommage, parce que ça permet aussi de désencombrer les cimetières et d'éviter au sol de se gorger de substances toxiques. Allez, la dernière chose, c'est sur le transport. Sachez que même les corbillards deviennent hybrides ou électriques. Je crois que les pompes funèbres aussi ont compris qu'il y avait un filon.
Sylvie Metzeler, une réaction à ce sujet. Les funérailles, d'ailleurs, qui sont plus économiques. Hein,
oui,
souvent, d'ailleurs,
cher,
ça coûte un peu moins cher.
20% en moyenne.
C'est alors mieux pour les consommateurs.
Oui, sans doute. Oui, mais alors après, surtout, tous ces systèmes-là, c'est quand même très encadré chez nous. On ne peut pas faire n'importe quoi de ces cendres des corps. Donc je pense que c'est pas pour tout de suite.
01 45 24 7000, on veut du propre à la une de 60 millions de consommateurs et vos messages très nombreux au standard de France Inter.
I've been cheating on, cheating on you. You've been cheating on me. But I've been cheating through this life. And all this suffering. Oh Christ. Am I good for nothing? I don't remember living life before this. And darling, our disease is the same one as the trees, unaware that they've been living in the forest. Cheating on me, I've been cheating on you. You've been cheating on me, but I've been cheating through this life. And all this suffering. Oh Christ, am I good for nothing? This life. And all is suffering.
This life, c'était Vampire Weekend.
La Terre au carré, le magazine de l'environnement. Mathieu Vidard sur France Inter.
Bien sûr, Plies fait merveille pour ôter la poussière, mais ce n'est pas tout. Avec Plies, la poussière n'est pas simplement déplacée, elle reste sur le chiffon. Résultat, les meubles restent brillants plus longtemps.
Mais c'est tant mieux parce que je ferai pas ça tous les jours.
Voilà, pour les plus de 40 ans, Marie-Pierre Cazet qui faisait cette pub pour la marque que nous venons d'entendre. Sylvie Metzeler, vous êtes notre invitée, rédactrice en chef de 60 millions de consommateurs, à la une de votre mensuel Dehors les toxiques, on veut du propre. Et donc, tous ces produits au banc d'essai, 108 produits décryptés et cette volonté de votre part d'imposer le ménage score, hein, justement, qui puisse nous permettre d'en savoir plus sur l'étiquetage de ces produits. Il y a beaucoup de messages, des appels également au standard de France Inter. Donc, on va tout de suite accueillir Dorian qui est avec nous. Bonjour Dorian.
Bonjour à vous, bonjour à votre invité.
On vous écoute.
Alors j'aurais tout d'abord une remarque suivie de deux questions que j'essaie de faire les plus concises possibles. J'imagine que dans la majorité des cas, personne ne suit une formation de chimiste, donc c'est un petit peu compliqué de savoir quel produit naturel utiliser. Et donc la question sous-jacente qui vient, c'est de savoir est-ce que les produits dits naturels sont aussi efficaces que des produits de grands industriels nocifs. Et si on les mélange, est-ce qu'on est sûr que les réactions chimiques ne soient pas aussi nocives que ceux qu'on prétend industriels ?
Alors Sylvie Metzeler, c'est la première question que vous vouliez poser, hein, Dorian. Alors votre réponse.
Surtout, oui.
Alors par rapport aux produits naturels, ceux à qui se fier, c'est ça ? Alors après, qu'est-ce que vous entendez par produits naturels ? Parce que est-ce que c'est bio, écolabel, éco-certifié ou ce sont des produits qui vantent le naturel ? Parce que par exemple, vous pouvez avoir des produits. On a le cas là dans notre étude. Voilà. Alors sur le bio, nous on a fait une étude en termes de toxicité et pas d'efficacité. Donc là, c'est un peu particulier. Effectivement, les produits bio ne vont pas forcément marcher aussi bien que quelque chose qui a des agents ultra décapants à l'intérieur. Ça, c'est pas la peine d'avoir fait un doctorat de chimie pour s'en douter. En revanche, il faut faire très attention à tout ce qui vante les produits naturels. Par exemple, nous, quand on a fait notre étude, on a été frappés de voir plein de produits. Notamment, il y en avait un qui nous avait m'avait beaucoup marqué. C'était un nettoyant pour le sol, si je dis pas de bêtises, sur fond de champs de lavande, vantant le savon de Marseille, etc. Donc là, on était en plein dans la naturelle, ces choses-là. Et donc, il s'appelait la marque et Marseille marqué juste en dessous. Mmh. Et en fait, en y regardant de plus près, déjà en regardant la composition, c'était pas terrible du tout. Et en plus, la partie savon de Marseille, quand vous regardiez la composition, ça faisait moins d'1% du produit.
Donc ouais. C'était l'étiquette. Et par rapport, pour compléter la question maintenant sur les produits industriels, mais qui font ce qu'on appelle du greenwashing, qui s'affichent en vert, qui ont des noms comme ça très naturels, est-ce que ils sont aussi mauvais que les autres en fait?
Ah bah oui bien sûr. Oui bien sûr. Ça c'est un affichage marketing.
Tous.
Bah tous. On n'a pas étudié tous les produits, mais généralement, ce sont des arguments marketing. C'est en rien ça n'a pas de valeur scientifique du tout.
Dorian, vous aviez donc une deuxième question.
Est-ce que dans les produits donc qu'on appellerait naturels et pourquoi pas bio, donc tels que vinaigre, etc., est-ce que si on mélange, ce qui est un peu la tendance en général, c'est que les gens, j'ai l'impression, pensent qu'en mélangeant plusieurs produits naturels et pourquoi
ça, non,
pas bio, aurait un résultat plus probant, alors que je me disais, là il y a une chimie, alors certes plus naturelle, mais il y a quand même une chimie qui se passe quand on mélange deux solutions ensemble.
Bien sûr.
Et est-ce que le résultat n'est pas aussi nocif ou aussi nocif que ce qu'ils nous vendent en industrie?
Absolument. Alors c'est la combinaison c'est la combinaison des produits qui peut être excessivement dangereuse. Mais après, déjà, quand vous avez acheté des produits, il faut absolument strictement regarder la méthode qu'on vous propose, pas ajouter des choses et mélanger avec n'importe quoi. Et surtout, alors il y a beaucoup de réactions qu'on a eues via les centres anti-poisons qui nous disaient oh là là, c'est terrible ce qui peut arriver. Alors on parlait de produits WC tout à l'heure. Il y a les enfants qui avalent les petits cubes qu'on met dans les toilettes, mais il y a les grosses intoxications qu'on voit souvent, ce sont des gens qui ont nettoyé au bicarbonate de soude, au vinaigre blanc, etc. Et après, on met de l'eau de Javel dessus. Et donc ça, c'est très, très, très mauvais, parce que ça fait des émanations particulièrement toxiques. Donc, il faut faire très attention à ne pas mélanger les produits.
Alors, on a une question sur l'eau de Javel, justement, de Jean de Lyon. Pourquoi l'usage de l'eau de Javel n'est pas réglementé au niveau européen? Et la France en est-elle le plus gros consommateur?
Alors là, je suis pas là pour le coup, je suis pas dans le secret des dieux, mais c'est vrai que en France, on a ce réflexe désinfectant eau de Javel. Donc c'est pas le truc le mieux de la terre. Et en plus de ça, souvent la partie eau de Javel peut être utilisée non pas pour désinfecter, mais comme agent blanchissant seulement. Donc ça va vraiment loin. Ça.
Alors Sabine est en ligne. Je crois que vous avez aussi, Sabine, une question sur l'eau de Javel. Bonjour, bienvenue dans la Terre au carré.
Oui, bonjour. Donc moi, je voulais savoir, j'ai 81 ans, on a toujours utilisé l'eau de Javel dans ma famille, l'eau de Javel liquide. Alors j'en mets dans les toilettes à peu près une fois tous les 15 jours, je mets carrément un litre d'eau de Javel.
Ah oui, un litre.
Oh là.
Voilà. Et puis je voulais savoir aussi pourquoi le liquide qui nettoie les vitres est bleu. Il est toujours bleu, quelle que soit la marque.
C'est vrai ça.
Sabine, c'est beaucoup un litre d'eau de Javel quand même, non? Qu'est-ce que vous faites avec ce litre d'eau de Javel?
Je balance dans les toilettes de temps en temps parce que ça a un effet radical. Si je laisse l'eau de Javel une nuit,
ça doit être radical,
je retrouve les WC complètement blancs. Hein, bon. Voilà.
Ça doit sentir très fort l'eau de Javel.
C'est un produit merveilleux parce que si on se fait... Moi, je suis pas pour l'utiliser en cube ou quoi que ce soit, liquide. Mais alors, faut être très prudent. Faut que ce soit toujours dans la bouteille d'origine. Parce qu'une fois, il a failli m'arriver un accident avec un produit qu'on appelait Myre. J'ai servi du Myre à des enfants, croyant parce que j'avais transvasé le Myre dans une bouteille et l'étiquette était partie. Et malheureusement, la femme de ménage a mis le Myre dans le jus, avec du jus de pomme, avec des bouteilles de jus de pomme.
Là,
et là, j'ai eu de la chance que ce soit du Myre. Il y a une petite qui est allée vomir tout de suite. Elle avait bu que sec le verre. Hein. Donc aussi, mon conseil, ne pas transvaser des produits toxiques
dans
des bouteilles en verre où on met une étiquette et tout d'un coup, l'étiquette se détache.
Alors, ouais. Sylvie Metzeler...
Mais remettez moins d'un litre d'eau de Javel, hein, oui. Parce que c'est beaucoup. Alors,
parce que la toxicité de l'eau de Javel, elle est réelle, attention.
Pour l'environnement aussi, alors là, voilà, pour l'environnement, c'est pas terrible. Après, même sur votre flacon d'eau de Javel que vous gardez précieusement, c'est bien, si vous mettez vos recharges dedans, c'est encore mieux. J'espère qu'elle est diluée, votre eau de Javel, d'ailleurs, que c'est pas de l'eau de Javel pure, mais... réduisez les doses, mais vous verrez, ça nettoie aussi bien. Après, en termes de fréquence, voilà, je suis sûre que chez vous, c'est super propre.
Hein. Ah oui,
mettez-en moins.
Il n'y a pas un microbe hein, chez Sabine. Merci beaucoup pour votre appel. Daniel, vous êtes en ligne également avec nous. Bonjour, bienvenue.
Bonjour.
On vous écoute.
Voilà. Et ben voilà, moi, mon ménage, je le fais avec du vinaigre blanc ménager. Voilà.
Et vous êtes heureux avec ça, apparemment.
Ben oui, c'est une odeur qui est un peu agressive pour les muqueuses, mais c'est très bien, moi je trouve ça très bien. Et puis voilà, et puis on a du bicarbonate de soude également, qui peut servir pour les dents, et puis également pour nettoyer un petit peu les draps, quand il y a de l'humidité, des choses comme ça.
Et quelle est votre question alors, Daniel, à ce sujet?
Eh ben, c'est bien ou pas bien?
Ah, ben voilà. Ça, c'est une question. Sylvie Metzeler.
Mais bien sûr que c'est bien. Bien sûr que c'est bien. Après, votre témoignage permet de montrer aux auditeurs que ça marche aussi, puisque visiblement, vous en êtes content et vous trouvez que c'est efficace.
Alors, sur Facebook, justement, on a Fabrice qui est conseiller médical en environnement intérieur. Il intervient sur ordonnance médicale de pneumologue, d'allergologue, de pédiatre pour aller au domicile des patients asthmatiques, allergiques, pour traiter justement tous ces problèmes. Et il y a une grosse source de pollution chimique due aux produits, mais il prône justement le vinaigre blanc alimentaire à 8 degrés, véritable désinfectant, dit-il, bicarbonate et véritable savon noir. Et c'est tout, rien que ça, dit-il. Les symptômes diminuent fortement pour les patients. Alors à quand une véritable prise de décision des pouvoirs publics sur la nocivité de tous ces produits?
Et ben ça, on est tous d'accord. On avait fait une grosse étude et on avait beaucoup interpellé les pouvoirs publics à propos de ça. Et c'est tout ce qui est... On n'en a pas reparlé dans cette étude-là, mais tout ce qui est désodorisant, pchit, bougie, tout ça. Mais faut arriver à bannir ça de nos intérêts. Vraiment, on n'en a pas besoin.
Et qui parfume.
Oui, puis ça nettoie pas, hein, donc voilà.
Alors, justement, ce label que vous allez essayer d'imposer, comment est-ce que vous allez vous y prendre? Parce qu'il y a une pétition en ce moment en ligne, il y a déjà 26 000 signatures, et donc vous souhaitez imposer ce ménage score.
Alors, imposer, on n'impose rien. On n'impose pas. Mais voilà, notre idée, c'est vraiment alerter et qu'on arrive à faire quelque chose. Donc, pour nous, l'idée, c'est que les pouvoirs publics s'en emparent. Voilà, nous, on ne travaille pas pour récupérer de l'argent, etc. Nous, on a travaillé sur ce mode de calcul, on le met à disposition des pouvoirs publics et des autorités compétentes pour qu'ils puissent faire suivre après et pour que ça l'imposer ensuite aux industriels. Après, vous savez, pour nous, c'est vraiment quelque chose de... C'est un cercle vertueux et il ne faut pas oublier ce qui s'est passé il y a quelques années maintenant pour les étiquettes énergie. Les étiquettes énergie qu'on a collées...
Même principe, hein.
Même principe. Autant vous dire que les fabricants, ils n'étaient pas trop contents de se retrouver au début avec des sur leurs appareils ménagers. Et maintenant, les produits, ils sont vraiment beaucoup, beaucoup améliorés en termes d'énergie. Donc voilà, après...
Mais ça va être une longue bataille pour vous
Je pense que c'est pas gagné, mais il faut y aller. Hein. Ouais. Il faut y aller, on peut pas rester dans le constat en disant c'est mal.
C'est une démarche française.
Ah oui, c'est ça. Alors après, notre idée, c'est que la pétition, ça tourne aussi au niveau européen,
etc. À l'étranger, ça n'existe pas, un tel système
d'adaptation. Non, alors après, on a tous nos réglementations et tout, mais non, ça n'existe pas.
Alors sur Facebook, Rémi demande à quand les distributeurs en vrac de produits ménagers bio?
Alors après... Même s'ils sont bio, il y a quand même des ingrédients dedans. On peut pas faire n'importe quoi. Il faut, autant en termes d'emballage, déjà même sur la nutrition, c'est quand même très encadré. Il faut faire très attention à ça. Donc à quand, je sais pas.
Alors Bruno est en ligne. Ce sera notre dernier appel. Bonjour Bruno.
Bonjour.
Et vous êtes en voiture,
alors,
visiblement.
Court. Voilà. Alors non mais ça va. Je fais court. Peut-on mélanger l'huile essentielle, par exemple, de lavande avec du vinaigre pour nettoyer, pour atténuer l'odeur.
Merci. Alors, Sylvie Metzeler, vous parliez d'éviter des mélanges tout à l'heure. Est-ce que des gouttes d'huile essentielle dans le vinaigre blanc, c'est préconisé ou pas?
Je sais pas du tout. A priori, alors ça, on met une goutte, je sais pas, ça je pourrais pas vous dire s'il y a une réaction chimique particulière, etc. Mais les huiles essentielles, quelles qu'elles soient, doivent être vraiment manipulées avec précaution et pas en mettre trop, quoi, en plus.
Merci beaucoup. Ce numéro de 60 millions de consommateurs est dans les kiosques en ce moment et la pétition également en ligne pour demander justement que soit imposé ce label Ménage Score. Merci beaucoup
à vous
d'être venu. Juste après les infos, vos solutions pour la planète. Clocindre, c'est son prénom, c'est une auditrice de Saint-Amour dans le Jura. Elle va nous parler d'une classe éco-citoyenne dont elle est à l'origine et qui fait sa rentrée elle aussi. Vous écoutez France Inter, bon après-midi et 14h.
France Inter. La Terre au carré.
Et au menu de cette deuxième demi-heure, un nouveau reportage de Célia Quigré dans un instant en Guyane. Célia qui est allée à la rencontre des tortues marines. Et puis l'invité découverte nous parlera de son travail de coordinateur national du réseau des grands prédateurs. Il travaille autour des loups, il hurle même avec eux, il nous en parlera. Mais pour le moment, vos solutions pour la planète. Et c'est vous, Clocinde, qui êtes en ligne. Bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour
vous
à tous.
Vous nous appelez du Jura, Clocinde. Vous êtes enseignante en mathématiques et en sciences physiques au lycée professionnel Ferdinand Fillot à Saint-Amour dans le Jura. Et vous êtes en train de mettre en place un projet de classe éco-citoyenne. On va en parler. La rentrée s'est bien passée pour vous, ça y est, c'est fait là?
Oui, c'est fait, c'était lundi.
Alors, qu'est-ce qu'on étudie dans votre lycée professionnel d'abord?
Alors, le lycée Ferdinand Fillot, c'est un lycée professionnel qui est spécialisé dans le métal. On peut y apprendre la chaudronnerie, la métallerie en bac pro. On a aussi des CAP ferronnerie d'art, de gravure, de ciselure. On a aussi des formations pour devenir soudeur et tuyauteur. On peut faire certaines formations en apprentissage ou par le Greta. C'est un petit lycée de environ 150 élèves. Ah oui. Une grande partie sont internes.
Oui. Alors Clocinde, votre projet de mettre en place donc cette classe éco-citoyenne, ça fait longtemps que vous y pensez?
Plus ou moins, disons que j'y pense depuis plusieurs années, mais c'est l'année dernière où ça a vraiment fait sens pour moi. Du coup, ça part d'un constat qui est récurrent pour le gâchis de papier dans l'établissement. Je pense que c'est dans beaucoup d'établissements comme ça. On a beaucoup d'élèves qui prennent pas soin de leur matériel, de leurs cours. Et l'année dernière, j'ai vécu sur une journée une succession d'événements. Sur une séance, il y avait des élèves qui avaient perdu, oublié leurs cours. Sur des polycopiés que j'avais distribués la séance d'avant. Sur la suivante, il y avait des absents qui avaient pas récupéré leurs feuilles. Donc je leur fais des photocopies, beaucoup, alors que ça avait été déjà fait. Et puis, cerise sur le gâteau, il y a un élève qui froisse et qui jette dans une poubelle classique une feuille sur laquelle il avait à peine marqué son nom et son prénom. Mmh. Alors qu'on a des poubelles de tri dans la classe. Du coup, ça m'a mis un peu en colère, j'ai moralisé et après coup, en fait, je me suis dit que finalement, ben, les bons gestes, ça s'apprend. Et on n'a pas encore des cours dans l'emploi du temps d'écologie pour apprendre à faire ça. Donc j'ai commencé à réfléchir sérieusement à ce projet.
Vous avez entendu Camille, le gâchis de papier, parce que nous on a exactement le même problème.
Nous on a
dans
un dilemme
bureau,
tous les jours, parce qu'on imprime et on se dit qu'on déforeste à vitesse grand V là.
Donc on a envie d'en savoir plus avec votre projet à vous, ça va peut-être nous donner des idées, Clocinde.
Donc à part les engueuler, qu'est-ce que vous leur faites faire à vos élèves pour qu'ils changent un peu leur comportement?
Ben pas grand chose, c'est prendre des petites habitudes. Après, c'est l'objectif du projet. Du coup, là, j'ai créé un vrai projet, donc avec une classe de seconde bac pro chaudronnerie, donc qui démarre à cette rentrée. Du coup, je vais avoir une heure par semaine pour travailler cette thématique avec eux. Et du coup, on va pouvoir, donc l'objectif, il est de les sensibiliser, de les responsabiliser, puis d'éveiller leur conscience sur la préservation des ressources. En gros, on fait de la formation du citoyen. Et la thématique de départ, c'est l'économie de papier, mais j'espère que ça va s'ouvrir sur d'autres thématiques. Mais l'idée, c'est qu'on va le travailler ensemble, tout ça.
Ouais, donc, Clocinde, on vous a dégagé une heure par semaine pour ça?
Oui, c'est ça. Ben, quand j'ai commencé à réfléchir sérieusement à mon projet, je suis allée en parler à mon chef d'établissement, monsieur Delacroix, et on a trouvé ensemble un arrangement pour que ça fonctionne.
Il est bien, ce monsieur Delacroix.
C'est quel jour, là? On est mercredi, ça n'a pas encore commencé, du coup, ce sera quel jour, votre heure?
Alors, mon heure, en fait, ça sera pour l'instant le lundi matin. Mais du coup, le lundi matin, les élèves arrivaient seulement dans l'établissement, donc j'ai à peine pu les voir.
Mais vous pensez qu'ils vont être ouverts, normalement, quand même, effectivement, on dit l'écologie, c'est un sujet qui sensibilise beaucoup les jeunes. Vous pensez que c'est quelque chose qui va leur plaire, qu'ils ont une envie de ça aussi?
Je sais pas trop, parce que, alors globalement, je les ai quand même vus 5 minutes, et quand je leur en ai parlé, on a discuté, ils étaient plutôt positifs. Mais après, je sais qu'on peut avoir des élèves qui sont récalcitrants, pour qui c'est pas des habitudes qu'ils ont, et qui sont plutôt énervés quand on leur parle de ça. Ah ouais. Je les connais pas encore, c'est difficile de savoir maintenant. Ouais.
En tout cas, Clocinde, vous avez mis en place des chartes pour les élèves, mais aussi pour les enseignants et pour l'administration, donc tout le monde est concerné et tout le monde va s'y mettre.
C'est ça. L'idée, c'est que je voulais absolument éviter le côté punitif du projet. Je voulais pas que ce soit, ça tombe sur nous. Donc, pour qu'il y ait une forme de justice pour eux, j'ai décidé de faire une charte où tout le monde s'implique. Et puis, on peut tous s'impliquer d'une manière ou d'une autre, parfois autour du papier, parfois sur d'autres choses.
Mmh. Mais alors, concrètement, qu'est-ce que vous allez faire? Parce que nous, on a envie d'avoir vos idées aussi pour recycler le papier, éviter le gâchis. À quoi vous avez pensé, précisément?
Alors dans les chartes, par exemple pour l'élève, alors c'est des cas qui sont un peu spécifiques dans les établissements scolaires, mais quand l'élève est absent, par exemple, l'enseignant va pouvoir remettre le document dans un bac en vie scolaire. L'élève s'engage à le récupérer dès qu'il revient. Donc ça, ça engage la vie scolaire, les enseignants et les élèves. On va leur demander de prendre soin de leurs affaires, puisque à mes collègues, je leur ai notamment demandé d'avoir une liste de matériel intéressante, par exemple d'éviter le cahier quand on fait beaucoup de polycopies. Et c'était pas forcément simple, donc du coup, on s'est mis d'accord. Il faut que les élèves jouent le jeu, du coup, de prendre soin de leurs cours s'ils n'ont pas de cahier. Après, dans la charte encore, il y a pour les enseignants, par exemple, on a mis en place depuis le début de l'année, on a arrêté les feutres qui s'usent très vite et qui polluent beaucoup. Et on a trouvé des crayons Woody qui les remplacent. C'est des crayons qui peuvent tenir une année entière, qui sont en bois et du coup, ça va faire très peu de déchets.
Bon, ben, c'est une belle année qui arrive, en tout cas, avec ce projet. Et puis, il va falloir réussir à convaincre les récalcitrants.
Mais même les enseignants ont besoin d'une charte, quand même.
Absolument. Et les administratifs aussi. Clossane, merci beaucoup. Il y a tout un tas d'infos sur votre projet sur un site internet qui s'appelle citéscolairesaintamour.fr. L'adresse exacte est en lien sur le site de la Terre au Carré. Et je vous souhaite à nouveau une bonne rentrée. Vous saluez tout le monde dans votre lycée.
Et vous les motivez.
Et vous les motivez, voilà, lycée professionnel Ferdinand Fillot à Saint-Amour dans le Jura. Merci beaucoup. Coucou Clossane, à bientôt.
Merci, belle journée, au revoir.
Allez, on part pour la Guyane, suite de notre série de reportages. Et aujourd'hui, nous allons sur la plage près de Cayenne. C'est le soir, on prend une petite lampe car le clair de lune ne suffit pas. Une cape pour nous protéger de la pluie et du vent. Et là, on découvre des tortues marines qui viennent tranquillement pondre leurs œufs sur la plage. Bonjour Célia Kiret.
Bonjour Mathieu.
C'est un spectacle magique auquel vous avez assisté et vous nous le faites découvrir. Il y a même de bonnes nouvelles.
Oui, la Guyane est remarquable. C'est l'un des rares endroits au monde où l'on peut observer assez facilement à marée haute la naissance de ces tortues marines. Alors, il y en a de moins en moins dans l'ouest de la Guyane. On a perdu plus de 80% des tortues luttes en 20 ans. Mais il y a une mobilisation internationale des États, des ONG. Et dans cette région, certaines tortues, notamment les olivâtres, réapparaissent peu à peu. Il y a donc une lueur d'espoir. Je vous emmène sur la plage de Rémire-Montjoly. C'est Laurent Kell du WWF et Marion de l'association Quata qui nous décrivent ce spectacle.
Vous avez vu, c'est pas une tortue lutte, c'est la petite tortue olivâtre là. C'est la plus petite des tortues marines. Elle pond beaucoup plus tard en saison. Donc là, c'est une des toutes premières de l'année qu'on a la chance de voir actuellement en Guyane. Et la bonne nouvelle au niveau des tortues marines, c'est que celle-là a plutôt tendance à être en augmentation en Guyane. Ici, donc, c'est l'association Quata qui réalise ces animations. Et on va se diriger pour rencontrer une des animatrices. Là.
On va voir une tortue lutte qui vient juste de sortir de l'eau. Donc elle est en phase de montée. Si tout va bien et qu'elle n'est pas dérangée, elle va pondre et repartir à l'eau ensuite. On en a déjà vu en avril, mais c'est surtout de mai à août, la saison de ponte pour ces tortues-là.
Et après, donc ça dure combien de temps la ponte? Après, elles repartent
De la montée au retour à l'eau, il y a environ 2 heures. Moi, je suis Marion de l'association Quata. Je suis saisonnière pour la saison tortue. Donc là, on voit une tortue lutte. Donc elle est montée il n'y a pas longtemps. Voilà, elle va vraiment agiter ses palettes avant pour dégager le sable. Souvent, on peut même en recevoir tellement elle en envoie. Elle remue du sable. Des fois, on pense que c'est pour un peu aplanir l'espace, dégager pour pouvoir creuser tranquillement son puits. Et après, déposer les œufs, reboucher. Et après, elle retournera à l'eau. Les week-ends, lorsque les conditions sont propices, on peut avoir beaucoup de gens sur la plage qui viennent observer ce beau spectacle.
Tant qu'elle n'a pas stabilisé sa place, elle risque de repartir si on la dérange.
Elle mesure combien à peu près?
C'est difficile à dire, mais c'est quand même une grosse femelle. Elle fait au moins 1m6, 1m7. C'est vraiment des belles tortues luttes qui vont peser environ 400-450 kg. Belle bête, exactement.
Est-ce que vous savez en fait pourquoi il y a une telle disparition des tortues luttes? Quels sont les facteurs?
Les tortues luttes sont menacées, que ce soit en mer ou à terre. Donc il n'y a pas assez de renouvellement. Normalement, c'est un bébé tortue sur 1000 qui arrive à l'âge adulte, à l'âge de se reproduire. Sauf qu'avec les menaces anthropiques, donc liées à l'homme, on est passé à un bébé sur 5000. Donc on a peu de renouvellement. On va avoir des adultes qui vont mourir en mer, soit naturellement, soit prises dans des filets. C'est la pêche, la pollution, à terre on va avoir le problème des chiens qui vont déterrer les nids, elles ont du mal à s'en sortir.
Un facteur très clair de disparition des tortues marines, ce sont les captures accidentelles qui sont liées à différentes techniques de pêche qui sont insuffisamment sélectives de façon accidentelle, elles capturent aussi les tortues marines. Ici en Guyane, on y travaille particulièrement avec le comité régional des pêches. On a déjà résolu cette question avec les chalutiers crevettiers.
Dans les années 90, on estimait que les chahutiers crevettiers de Guyane capturaient chaque année 1 000 000 de tortues. Et en travaillant avec les pêcheurs, en fournissant des alternatives aux pêcheurs, on a montré qu'il était possible de continuer à pêcher la crevette en Guyane sans capturer de tortues marines grâce à un dispositif qui s'appelle le TED, qui a été amélioré par les pêcheurs guyanais eux-mêmes et qui est devenu obligatoire à leur demande. Il est obligatoire depuis 2010 et on sait que leur capture accidentelle principale, c'était la tortue olivâtre. Et il y a certainement un lien direct entre l'augmentation des effectifs des tortues olivâtres en Guyane et le fait que les pêcheurs crevettiers de Guyane aient adopté des nouvelles techniques de pêche qui excluent maintenant toute capture accidentelle de tortues. Il reste à travailler avec les fileyeurs côtiers, donc ceux qui utilisent d'autres techniques de pêche beaucoup plus proches des côtes, des filets maillants, qui de façon encore trop régulière capturent des tortues. Mais là encore, on a la chance de pouvoir travailler avec des acteurs de la pêche localement qui sont favorables à des tests d'alternatives, et c'est ce qui est prévu dès 2020 ici au large de la Guyane.
Après, niveau pollution, la solution c'est propre à chacun, c'est déjà de réussir à gérer ses déchets. Pour certaines des menaces, on peut faire quelque chose, même si on pense qu'à notre petite échelle c'est pas grand chose et ça sert à rien. Si ça sert, parce que si tout le monde le faisait, je pense que ça irait mieux.
Et elle revient pour les œufs ou pas?
Pas du tout. Non. Une fois qu'elle a pondu, elle repart en mer. Elle peut revenir pondre une autre fois. Les tortues luttes en Guyane reviennent pondre en moyenne 2 fois par saison. Mais en aucun cas, elle va revenir s'occuper des bébés. Ils vont se débrouiller tout seuls et regagner la mer comme des grands.
Donc il y a des progrès, Sylvia, notamment grâce à ces nouveaux filets de pêche. Alors, que dit l'Europe à ce sujet?
Alors, l'Europe vient d'imposer justement l'utilisation de ces filets anti-capture accidentelle pour l'importation des crevettes de Guyane. Mais là encore, il y a un enjeu diplomatique, car les pêcheurs brésiliens juste à côté n'ont pas les mêmes normes et ils viennent parfois pêcher dans les eaux guyanaises. Or, les tortues, elles, ne connaissent pas les frontières. Les pêcheurs français voudraient bien que l'on impose les mêmes normes aux autres pays exportateurs.
Votre dernier sujet demain, Célia, en Guyane?
Eh bien, demain, nous verrons justement comment la marine française lutte contre la pêche illégale en Guyane. Nous serons à la base navale de Dégrade-des-Cannes à Cayenne.
Merci beaucoup. Célia Quilleret et des tortues. Nous passons au loup dans un instant avec notre invité Découverte. Ce sera juste après, évidemment, et l'homme pâle. Bon après-midi dans la Terre au carré.
Les plus grands sages disent que le vrai bonheur est dans l'équilibre. C'est peut-être la débilité, mais j'ai jamais voulu la vie tranquille de quiconque. Petit, j'avais pas trop sommeil. Mourir au sommet comme King Kong, le seul rêve qui compte. Mais pourquoi moi? Pourquoi je serais différent des autres? Mon seul don, c'est vouloir être différent des autres. Et pour ça, j'ai la rage de vaincre, la rage d'être le meilleur sur la page de vin. Si jamais ça marche, je pars plus comme une tache de vin. Oh, j'ai l'impression de m'entendre dans mes premiers morceaux, toujours à crier comme un connard morceau. Sauf que maintenant, j'ai plus 19 ans, et je crois bien que les gens bizarres du showbiz disent que mes disques se vendent. Yes, concert complet dans toutes les villes de France. On était déjà passé par là en vanne. Sur scène, je donne tout, j'en ai 2000 devant. Mais je suis toujours mal à l'aise quand je parle à un fan. Évidemment que je veux briller comme l'or. J'ai passé ma vie invisible comme l'or. Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant? Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant? Des millions d'heures seul dans le noir. Dieu merci, j'ai enfin confiance en moi. Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant? Ça sert plus à rien de m'aimer maintenant. Seul à 3h du mat, dans un bar on peut reconnaître pâle. Sous ma poitrine c'est plus froid qu'en Islande. Dans mon caleçon c'est plus chaud qu'au Népal. Je fais que déconner, pardon. Chaque semaine je couche avec une nouvelle fille que je connais pas. Est-ce que j'essaie de me venger? Me venger de toutes ces années où je plaisais moins aux filles que les mecs dérangés. Où je me sentais partout étranger. Où je servais qu'à nourrir leur ego quand c'est pétasse. Ouais, aujourd'hui c'est moi qui monte les étages, ouais. Bon d'accord, j'étais consentant quand je rentrais dans leur spirale. C'était toujours mieux que d'être invisible. Maintenant je ressens plus rien, je m'intéresse plus qu'à leur physique. Et tous les soirs le diable me rend visite. Fini les grosses gars, trop fausses gamins, j'étais tellement bête. Je veux un Oscar pour chaque film que je me suis fait dans la tête. Merde, avant j'étais un peu froid, maintenant je le suis complètement. C'est trop tard pour combler le manque. Évidemment que je veux briller comme l'or. J'ai passé ma vie invisible comme l'or. Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant? Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant? Des millions d'heures seul dans le noir. Dieu merci, j'ai enfin confiance en moi. Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant? Sert plus à rien de m'aimer maintenant. Évidemment que je veux briller comme l'or. J'ai passé ma vie invisible comme l'air. Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant? Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant, ouais. Des millions d'heures seules dans le noir. Dieu merci, j'ai enfin confiance en moi. Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant? sert plus à rien de m'aimer maintenant.
France Inter, la Terre au carré.
Voilà, notre invité découverte cet après-midi imite les loups pour mieux les repérer et il est en ligne avec nous depuis les studios de France Bleu Isère à Grenoble. Bonjour Nicolas Jean.
Bonjour.
Est-ce que ce sont bien des loups qu'on entend là ?
Ça y ressemble en tout cas.
Parce que c'est vraiment un aboiement qui est très proche du chien aussi quand même. Là, on est assez surpris de l'entendre comme ça.
Tout à fait, de toute façon les deux espèces sont très proches, elles proviennent d'un ancêtre commun, donc elles ont des similitudes, notamment dans l'expression de leur voix.
Alors Nicolas Jean, vous êtes coordinateur national du réseau des grands prédateurs à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, et vous êtes également chargé de mission nationale loup à la délégation régionale Auvergne-Rhône-Alpes, et c'est en lisant un article du Monde il y a quelques jours que nous vous avons découvert, et qu'on a découvert d'ailleurs votre travail. Alors racontez-nous exactement ce que vous faites, puisqu'on dit que vous hurlez avec les loups, et vous étiez d'ailleurs en campagne hier dans les Hautes-Alpes. En quoi ça consiste exactement ?
Alors le suivi du loup en France repose sur un système de réseau participatif qui vise à collecter des données donc au travers de correspondants qui sont actuellement à peu près 4000 personnes formées, aussi bien des professionnels que des bénévoles, qui dans le cadre de leur activité courante vont de manière opportuniste pouvoir collecter des informations sur la présence des loups sur les territoires. Et en parallèle, on va organiser des opérations spécifiques de suivi, aussi bien en hiver ou en été. Et là actuellement, nous sommes dans la période de suivi estival de l'espèce, où donc on va chercher à provoquer la réponse des loups, donc par des hurlements stimulés par l'homme, pour essayer de repérer la présence des meutes.
C'est une technique qui vient d'où exactement ? Comment on a eu cette idée ?
Alors c'est une technique qui a été développée dans d'autres pays au préalable, et notamment en Amérique du Nord, et qui vise tout simplement à utiliser la fonction sociale du hurlement, qui permet aux loups à la fois d'assurer la cohésion de la meute, mais également d'assurer un marquage territorial. Et le fait d'imiter un hurlement de loup, vous allez pouvoir provoquer une réaction d'une éventuelle meute. Et ainsi, elle va se signaler. Et à l'ouïe, on va pouvoir être capable de détecter la présence de jeunes à la réponse. Et dès lors qu'on a identifié la présence de jeunes, on va pouvoir qualifier donc une reproduction et à ce moment-là, pouvoir certifier la présence d'une meute sur un nouveau territoire.
Et est-ce qu'ils vous répondent systématiquement, les loups éventuellement présents ?
Alors non, c'est pas une réponse systématique. Hein. Nous sommes dans un suivi d'espèces en nature, donc c'est relativement complexe. Il y a des phénomènes confondants assez nombreux qui peuvent être liés au relief, au vent ou tout simplement à l'attitude des animaux qu'on essaye de détecter. On a des taux de réponse de l'ordre de 30% hein, lorsque les animaux sont établis en meute.
Et Nicolas Jean, est-ce que toutes les meutes reconnaissent le même hurlement ou vous avez une gamme justement de cris ?
Non, il n'y a pas de gamme particulière. On cherche simplement à imiter du mieux possible. Un hurlement, c'est un stimulus en fait. Ce n'est pas vraiment de l'imitation, c'est plus un stimulus qui va générer une réponse de la part des congénères.
Ouais. Alors quand vous organisez une campagne comme hier soir, donc dans les Hautes-Alpes, c'est à la demande de qui d'abord ? Et c'est précisément pour arriver à quoi ? Vous le disiez, c'est pour faire une sorte d'inventaire ?
Voilà, donc le suivi de l'espèce est organisé donc et confié par le ministère à notre établissement public, mais nous travaillons en partenariat avec de nombreux autres établissements, dont les parcs nationaux, les parcs régionaux, des bénévoles et tout un tas d'autres structures. Donc l'objectif, c'est d'évaluer annuellement l'état de la population de loups en France. Et comme je vous disais tout à l'heure, donc on a deux périodes particulières, et que sont le suivi hivernal, qui nous permet de connaître l'effectif minimum de loups par meute, mais également le suivi estival, qui nous permet d'identifier la présence de meutes sur de nouveaux territoire.
Alors la question des loups, évidemment, c'est aussi celle des éleveurs en détresse. Et sur ce dossier, vous êtes une sorte de gestionnaire de conflit. Comment ça se passe exactement ? Comment vous travaillez aujourd'hui autour de cette problématique ?
Alors la problématique du loup est effectivement liée à la problématique de la prédation. Et le loup étant un carnivore, il a inscrit à son régime alimentaire des ongulés sauvages, mais également des ongulés domestiques. Et donc il occasionne des prédations sur les troupeaux en montagne. Actuellement, donc le gouvernement a mis en place une stratégie de gestion qui passe par d'une part la mise en place de mesures de protection des troupeaux, également par l'indemnisation des victimes qui seraient constatées donc autour des troupeaux, Et enfin, par la réalisation d'éventuellement tirs de défense autour des troupeaux, voire de tirs de prélèvement. Donc notre action, elle intervient à la fois sur le constat des dommages, c'est-à-dire l'évaluation de l'importance des dommages autour des troupeaux, mais également nous avons une équipe spécialisée, là, une brigade d'intervention, qui va intervenir en soutien aux éleveurs qui subissent des attaques répétées sur une période donnée, qui bénéficient de mesures de protection et malgré lesquelles les loups continuent d'attaquer. À ce moment-là, on va pouvoir intervenir en surveillance du troupeau et en intervention éventuellement pour prélever l'animal qui serait un petit peu plus audacieux que les autres.
Donc vous êtes autorisé à procéder à des tirs défavorables. On peut dire des choses comme ça?
Alors, il y a plusieurs catégories de tirs qui sont mises en place dans un cadre dérogatoire, puisque le loup est une espèce protégée en France. Et donc, le ministère a mis en place un système graduel qui permet l'intervention sur la population de loups, qui passe par des tirs d'effarouchement non létaux, donc simplement pour faire peur à l'animal. Mais dès lors que ça ne suffit pas, on peut passer à des opérations avec un tir létal et qui peut aller jusqu'au prélèvement d'individus.
Et les loups, ils se déplacent beaucoup. Une fois qu'ils sont installés quelque part, ils y restent. Ce qui pourrait être aussi une façon de communiquer avec les éleveurs, de leur dire là, il y a des loups, donc il faut qu'ils se déplacent. Enfin, comment ça se passe au niveau de la sédentarité ou du nomadisme de ces loups?
Alors, le loup est une espèce assez remarquable dans sa biologie et notamment dans ses particularités, c'est une espèce qui a des capacités de déplacement importantes. C'est-à-dire qu'un loup va être capable de parcourir entre 30 et 40 km sur 24 heures pour explorer et utiliser son territoire. Et en plus, vous avez des loups en phase de dispersion qui, eux, vont être capables de parcourir plusieurs centaines de kilomètres. Et c'est ainsi qu'on a pu constater la présence occasionnelle d'animaux très éloignés de la population source alpine, notamment dans le nord de la France ou dans le sud-ouest.
Et alors comment vous faites du coup avec les éleveurs? Parce que vous êtes également là pour le dialogue, pour la médiation. Comment est-ce que vous arrivez à établir ce dialogue et à essayer de trouver des solutions justement pour la cohabitation et du loup et des élevages, brebis, chèvres, etc.?
Alors concrètement, on n'est pas en capacité de pouvoir prédire l'arrivée ou non d'un loup sur un alpage. Simplement, les éleveurs, dès lors qu'ils sont confrontés à la présence de loups, donc ils vont pouvoir mettre en place des mesures de protection qui sont financées par l'État, qui sont adaptées donc en fonction de leur territoire, de leurs contraintes, puisque tous les pâturages ne se valent pas. Il y a des pâturages beaucoup plus exposés que d'autres à la prédation. Et nous, notre rôle va être d'intervenir sur des pâturages qui, malgré la mise en place de mesures de protection et des efforts de gardiennage, vont nécessiter l'intervention, la surveillance nocturne du troupeau et éventuellement le prélèvement d'animaux qui seraient en situation d'attaque.
Quelles sont les mesures les plus efficaces aujourd'hui en matière de protection justement des troupeaux et des éleveurs?
Alors toute la difficulté pour la coexistence entre loup et l'élevage vient du fait qu'il n'y a pas de solution miracle. Malheureusement, il faut adapter une combinaison de plusieurs mesures qui va être adaptée au contexte local. Donc parmi les trois mesures les principales, il y a le gardiennage renforcé, donc la présence humaine autour des troupeaux, la mise en place de chaînes de protection, alors il y a plusieurs races qui sont actuellement déployées sur notre territoire, et également du regroupement nocturne, donc pour éviter les mouvements de panique des brebis ou des chèvres dans les parcs. Voilà, donc c'est la combinaison de ces trois éléments qui va permettre de réduire l'impact du loup, et qui malheureusement n'est pas efficace à 100%. Il y a toujours le loup est une espèce qui est très adaptable, qui va être opportuniste et qui va être pas capable d'exploiter toute faille dans le dispositif, c'est-à-dire un troupeau qui va être par exemple très bien protégé la nuit, le loup va attaquer la journée. Un troupeau qui va être très bien gardé, il va profiter d'un moment d'inattention ou alors d'un passage dans des parties boisées ou lors de mauvais temps pour attaquer le troupeau.
Oui, Nicolas Jean, il y a un auditeur, Larry, sur Twitter qui nous demande pourquoi est-ce que vous n'utilisez pas des enregistrements plutôt que de hurler vous-même?
Alors, c'est une bonne question. On a testé tout un tas de dispositifs et c'est simplement pour des questions techniques. C'est-à-dire que avoir un enregistrement, il faut avoir du matériel électronique avec nous. On est souvent en montagne. Hier, par exemple, on était sur des opérations en haute montagne, donc avec parfois plus d'une heure d'approche pour aller sur les sites. Et c'est vrai que c'est toujours embêtant dès lors que vous arrivez sur la zone et que vous vous rendez compte que vos batteries sont déchargées ou que votre matériel ne marche pas. Donc, c'est pour ça qu'on a recours tout simplement à un système qui a fait ses preuves et qui fonctionne aussi bien, qui est d'utiliser la voix humaine avec un système d'amplification très simple.
Et très rapidement, comment on apprend à hurler comme un loup quand on est un être humain?
Alors, comme je vous dis, il n'y a pas véritablement d'apprentissage. On ne passe pas des cours du chant pour essayer de s'améliorer. C'est simplement un stimulus qu'on va provoquer dans la nature et qui va permettre au loup de répondre, tout simplement. Mais le loup est un animal assez réactif et qui va, dès qu'il va entendre un hurlement proche de celui qu'il peut émettre, va réagir assez facilement.
Combien on a de loups en France actuellement, si on arrive à faire une estimation à peu près exacte?
Alors, la dernière estimation qui a été établie en fin d'hiver dernier évalue la population entre 480 et 580 individus, soit une moyenne de 530 loups à peu près en France.
Ouais, qui sont répartis sur trois régions principales. Hein. Il y a une carte d'ailleurs qui est à disponibilité des auditeurs qui est très bien faite. Donc, depuis l'est de la France jusqu'aux Alpes et milieu sud. Hein.
Tout à fait. Donc, les régions principales de présence de l'espèce sont la région PACA et Auvergne-Rhône-Alpes. Et on commence à voir une extension de l'espèce sur le nord-est de la France, mais également vers le Massif central.
Voilà, hurler avec les loups pour mieux les repérer, c'était le titre du Monde qui vous consacrait justement un portrait, Nicolas Jean, il y a quelques jours. Merci beaucoup à vous pour vos explications et merci aux équipes de France Bleu à Grenoble qui ont permis ce duplex. Merci à vous. Camille, c'est terminé pour aujourd'hui.
Et oui, donc on se retrouve demain.
Absolument.
Même lieu, même heure.
À la rédaction en chef, Denis Delbecq, Thierry Dupin pour la programmation musicale de l'émission.